Avec Céline Alonso, on reçoit qui ? Un pionnier de la musique électronique. Le Einstein du Mélotron, quelqu'un qui a vendu 80 millions de disques à travers le monde. On reçoit Jean-Michel Jarre.
À l'occasion de la sortie de son 20e album chez Columbia, et bien 40 ans après Equinox, ce fameux donc célèbre album, il publie donc Equinox Infinity, qui est donc inspiré, Jean-Michel, donc de l'original en quelque sorte.
Exactement. Là, première chose, j'adore votre générique. Je voulais simplement le dire, voilà, en guise d'introduction.
Merci.
Indépendamment de ça, effectivement, je sors cet album qui est très particulier pour moi parce qu'en fait, je suis parti de la. C'est la première fois que je faisais ça. Je suis parti de la pochette iconique du premier Equinox, faite par Michel Granger. Ces espèces de créatures qui vous observent à travers des jumelles et on ne sait pas trop
ce qu'ils voient.
Et en fait, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils étaient devenus aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils seraient. Qu'est-ce qu'il serait dans 40 ans. Et donc du coup j'ai imaginé cet album un peu comme une bande son de ce scénario imaginaire que je me suis inventé en me disant en fait ces personnages ils symbolisent finalement à la fois la technologie et l'évolution de la technologie depuis que j'ai commencé. Et puis en même temps, ce sont un peu des lanceurs d'alerte par rapport à l'environnement et à la technologie. Je suis persuadé qu'on ne pourra survivre qu'à partir du moment où on évolue en bonne intelligence avec l'environnement, avec la technologie, et que ces deux facteurs sont beaucoup plus interdépendants qu'on ne le pense. Et donc ça a été la base de cet album. Pour une fois, que j'ose dire, dont je suis assez satisfait. Ça n'a pas été le cas, André Berkoff le sait. Je suis assez perfectionniste et mes albums, c'est un mélange de frustration et d'espoir. Les frustrations que c'était pas exactement ce que je voulais, avec l'espoir que le prochain coup, ça sera mieux. Mais dans ce cas-là, je suis assez content parce que je crois que c'est l'idée d'être parti du visuel de ces pochettes et de l'approcher un peu comme une musique de film, au fond, fait que c'est un album qu'il faut non pas écouter 3 minutes, mais qu'il faut écouter un peu comme on regarde un
tout
film.
Entièrement. Moi, je voudrais rappeler quelque chose, Jean-Michel Jarre. On se connaît depuis longtemps et c'est pour ça que je vous en parlais. Mais moi, je me rappelle notamment d'un extraordinaire concert à Houston, Texas. Vous avez donné des concerts dans le monde entier. On en reparlera. Mais moi, je voudrais parler de comment vous êtes venu à quelque chose. Et il faut dire, parce qu'aujourd'hui, on parle de Daft Punk, on a parlé de Kraftwerk, on a parlé de beaucoup de gens. Mais le père, parce qu'il n'est pas chenu, loin de là encore, mais le père de toute cette musique électronique, technologique, tout ça, c'est Jean-Michel Jarre. Je voudrais quand même vous rappeler comment c'est venu, enfin, comment vous avez abordé ce domaine et vous êtes très vite arrivé à Oxygène qu'on vient d'écouter.
Alors en fait, j'avais un grand-père qui était à la fois joueur de hautbois et ingénieur, inventeur, qui a inventé une des premières consoles de mixage pour la radio et également aussi les premiers TEPAS, vous savez, les tourne-disques à piles. Où on pouvait partir en pique-nique, l'ancêtre de l'iPod,
oui,
on pouvait
absolument partir
en fait, en pique-nique en écoutant Edith Piaf.
J'ai pas connu, mais bon.
Et donc il m'a donné ce goût de cette espèce de pont entre la musique et la technologie. Il m'a offert un petit magnétophone Grundig allemand quand j'avais 9-10 ans, un petit comme ça, et je m'amusais à enregistrer mes grands-parents habitaient devant la gare de Perrache et j'enregistrais les putes et les soldats qui étaient en bas sur le café de la gare, et il y avait en même temps un crémier, une crèmerie entre les deux, et donc c'était ce mélange de voix de filles et de mecs éméchés avec les berthes de lait, comme on disait à Lyon.
Le premier sampling lyonnais.
J'avais aucune idée à cette époque-là de ce qu'était le sampling.
Oui.
Et donc ensuite j'ai joué dans des groupes, et un jour j'ai passé la bande à l'envers et j'ai eu l'impression que c'était des aliens qui me parlaient. Et du coup, quand j'ai commencé dans les groupes de rock, je m'amusais à passer mes solos de guitare à l'envers, etc. Et puis le batteur qui s'appelait Stanislas Witold, et dont le père était Jean Witold, qui travaillait à la radio en même temps, me dit, tu sais, il y a des allumés comme ça qui travaillent au groupe de recherche musicale, et il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre Schaeffer, celui qui est le père de la musique concrète, et qui est devenu en fait mon mentor, mon professeur. C'est comme ça que j'ai commencé, avec pour la première fois quelqu'un qui abordait la musique non pas en termes de notes appuyées sur le solfège, mais en termes de son, et en se disant, on peut enregistrer le bruit de la pluie, du vent ou de la rue, et en faire de la musique.
Donc et c'est comme ça que c'est venu que tout ça.
Exactement.
Ouais,
exactement.
Formidable. Oui, alors les Watchers, justement, les guetteurs, les veilleurs. Et justement, je voudrais en parler parce que Jean-Michel Jarre, vous parlez beaucoup, vous en avez parlé au début, justement, technologie, environnement. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on parle comme toujours, des dangers de la technologie. Est-ce que l'intelligence artificielle va bouffer l'homme, etc., etc. Et puis l'environnement, effectivement, on en parle, et pour cause, avec le réchauffement climatique et autres. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les watchers, pour vous, c'est quelque chose de nécessaire, les lanceurs d'alerte?
Je pense que c'est indispensable. Je pense que finalement, les watchers, les guetteurs, les lanceurs d'alerte, ça fait partie finalement de notre ADN, nous, êtres humains. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé par une mère qui a été une grande résistante et qui m'a toujours inculqué le fait que quand le pouvoir en place ou génère des idées ou des actes qui sont contraires, qui peuvent être négatifs pour notre communauté, un certain nombre d'entre nous doivent se lever et résister et lancer l'alerte. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé il y a 2-3 ans, j'ai fait un morceau avec Edward Snowden, par exemple, que je considère comme un héros moderne.
Avec Julian Assange et d'autres. Enfin,
voilà, exactement. Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on puisse, en tant qu'artiste, non pas comme certains de mes collègues du rock'n'roll, transformer leur salle de concert en plateforme politique, mais à travers sa musique, partager des convictions et justement en matière d'environnement, de plus oxygène. Et cette pochette aussi iconique que celle d'Equinox avec ce crâne, la Terre, ouais, qui découvrait ce crâne, qui était malheureusement assez prémonitoire de ce qui nous guette.
C'était 76, ça. C'était 76,
exactement. Ouais. Et Equinox aussi, finalement, ces personnages qui finalement nous observent. Alors, en même temps, vous parliez, André Berkoff, c'est les deux mamelles de notre futur, qui sont le développement de l'intelligence artificielle d'un côté et les questions d'environnement. L'intelligence artificielle, c'est aussi lié au fait que la technologie, on l'observe, puisque un certain nombre d'entre nous regardent nos iPhones plus que, ou nos smartphones plus exactement, pour pas faire de pub à Apple, plus que nos partenaires ou notre propre famille. Ouais. On oublie que cette technologie aussi nous observe, qu'elle nous étudie pour mieux nous connaître, pour mieux nous vendre des produits dont on n'a pas besoin, pour nous espionner, pour envahir notre vie privée et éventuellement un jour prendre le pouvoir à travers l'intelligence artificielle, comme André était en train de le dire.
Alors justement, pour votre dernier album, est-ce que vous avez eu recours à des logiciels donc d'intelligence artificielle?
Alors, j'avais justement l'espoir de collaborer avec des logiciels et j'étais un peu déçu. Je pense que ça sera le prochain coup. Parce qu'on n'est pas tout à fait encore arrivé au fait de pouvoir faire quelque chose d'intéressant. En deux mots, où vous pouvez, avec un algorithme, laborieusement imiter une chanson copier une chanson de Michael Jackson ou des Beatles, ou alors vous donner une mélodie à un algorithme qui vous propose des variations un peu à la Bach ou à la canon de Pachelbel. Donc il faut leur dire
ils suivent pour le moment, voilà. Ils ne créent
mais
pas.
Je pense que dans quelques mois ça sera différent et je suis absolument convaincu que d'ici une dizaine d'années ou 10-15 ans des algorithmes et l'intelligence artificielle, et je pense qu'il faut pas nécessairement en avoir peur, seront capables de générer des histoires originales, des films, des musiques originales, et que ça va effectivement nous forcer, nous, à utiliser peut-être les 90% de notre cerveau qu'on n'utilise pas encore.
Ce qui est très intéressant quand même là-dedans, Jean-Michel Jarre, c'est que, en fait, la musique, c'est la grosse différence, c'est que vous ne donnez pas un message, ça parle au monde entier, la musique, évidemment.
C'est alors, bien. Jean-Michel, vous consacrez donc dans vos derniers albums un titre aux robots.
Robots don't cry so far.
So far.
C'est-à-dire que les robots ne pleurent pas jusqu'à maintenant.
Jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'on peut dire que dans une dizaine d'années, peut-être que les machines seront capables d'avoir des émotions, de pleurer, de rire. Est-ce que ça vous effraie?
Oui, d'avoir de la nostalgie. Ce serait pas mal un robot qui est capable de nostalgie.
c'est vrai.
Et oui, je pense que c'est possible et ça fait peur. Évidemment, ça nous fait peur puisque c'est dans l'ADN humain de penser que hier était mieux et que demain ça sera pire, puisque finalement, à plus ou moins brève échéance, on sait qu'on ne fera pas partie de ce futur. Donc on a une vision forcément pessimiste du futur. Mais je pense que jusqu'à maintenant, les futurs successifs, antérieurs, ça s'est plutôt pas mal passé, sinon on ne serait pas là au micro de Sud Radio en train de se parler. Donc il n'y a pas de raison que ça change. La seule point d'interrogation, c'est finalement le fait de la démographie galopante, du fait que, comme le disait Stephen Hawking l'année dernière, encore avant qu'il nous quitte, Il fera peut-être, avant la fin du siècle, quitter la planète pour aller en coloniser d'autres parce qu'on sera trop.
D'ailleurs, le commandant Cousteau disait effectivement, nous sommes trop devant le même frigo.
Oui, c'est ce qu'il m'a dit un jour. Il m'a dit, jusqu'à 850 millions, tu vois, on peut, la Terre est faite pour ça. Jusqu'à 2 milliards, on peut s'en sortir. Au-delà de 2 milliards, on est trop nombreux devant le même frigo, ce que je trouve assez juste.
Alors, quel type de son vous avez utilisé et surtout mixé dans cet album?
Alors, dans cet album, c'est un mélange des premiers synthétiseurs analogiques que je considère un peu comme les Stradivarius de la musique électronique, et puis aussi des logiciels ou des plugins, ce qu'on appelle des synthétiseurs virtuels qu'on peut trouver sur l'ordinateur. Je pense que si aujourd'hui j'avais à faire le premier Equinox en ayant 28-30 ans, j'utiliserais les instruments de mon époque. Donc cet Equinox Infinity, c'est vraiment un mélange, j'espère assez harmonieux, du monde de analogique et du monde numérique.
Et oui, Jean-Michel Jarre est aujourd'hui donc notre invité sur Sud Radio à l'occasion de la sortie de son nouvel album, 40 ans après Equinox. Eh bien, il publie Equinox Infinity chez Columbia, le nouveau chapitre de l'album culte, qui est disponible, Jean-Michel, donc avec donc deux pochettes différentes. L'une présente un futur paisible et l'autre un avenir peu apocalyptique.
Oui, on l'a dit, donc c'est effectivement Paradise Now ou Apocalypse Now, c'est la vieille question, en tout cas c'est pas nouveau. Mais Jean-Michel Jarre, vous parliez, on va revenir là-dessus, sur justement, et puis votre musique l'incarne, d'un côté la technologie avec ce que ça comporte, et d'un côté l'environnement. Mais ce qu'on ne peut pas dire, parce qu'il y a la grande dispute, vous le savez, Donald Trump qui dit tout ça, COP21, tout ça, c'est rien, et puis il se retire, les autres qui disent mais non, c'est très bien. Est-ce que quand même on ne peut pas dire aussi que peut-être que la technologie va être le facteur principal de l'amélioration de notre environnement? Est-ce que la technologie ne peut pas agir là-dessus?
Ah mais j'en suis convaincu, c'est d'ailleurs le thème de cet album. Le fait que justement on puisse aujourd'hui on utilise 10% de notre cerveau, et on peut se dire que ça c'est quand même un gros gâchis. Et si l'intelligence artificielle notamment peut nous aider à mieux nous connaître et mieux utiliser nos ressources, je pense qu'on sera plus, donc à travers l'éducation en particulier et avant tout, on sera sans doute beaucoup plus à même de prévoir les changements climatiques, de pouvoir justement contribuer à sauver la planète, parce qu'au bout du compte, il faut quand même le dire, le cancer de la planète, c'est nous aujourd'hui. Donc il faut au bout d'un moment se rendre compte que c'est pas parce qu'on va seulement trier nos poubelles qu'on va s'en sortir. Il faut vraiment, comme de plus en plus de gens le disent sur la planète, vraiment changer d'optique. Changer de focale,
changer de vie.
Effectivement, Jean-Michel, vous êtes un artiste donc très engagé pour la planète et pour le patrimoine aussi. Vous êtes donc ambassadeur de l'UNESCO depuis 25 ans. Et donc, à ce titre, vous avez donné donc plusieurs concerts exceptionnels, notamment sur le site antique de Masada en Israël. Et dernièrement, donc, à Riyad, en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui vous a donné envie donc de vous produire dans ce pays?
Ben moi, je suis contre toute forme de boycott. Je pense que justement dans les pays où il y a une volonté de changement qui vient des jeunes générations, en Arabie Saoudite, 50% de la population a moins de 30 ans. Il y a vraiment un besoin de changement, et je pense que dans les pays justement qui ne bénéficient pas des mêmes conditions de vie, des mêmes libertés que les nôtres, c'est une obligation pour les artistes.
Il faut y aller.
Parce que sinon, on applique la double peine ou la double punition. Mmh. C'est-à-dire que non seulement les gens n'ont pas les mêmes conditions que nous, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan des droits tout court, mais en même temps, on leur priverait de culture, de musique, de cinéma, de littérature. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il faut faire une différence entre une idéologie et un peuple, et que les artistes n'ont pas le même agenda que les politiques. Les politiques peuvent avoir une certaine attitude vis-à-vis d'un certain nombre de régimes, mais les artistes, eux, s'adressent au peuple, pas au régime.
C'est vrai, mais alors, je vais me faire l'avocat, non pas du diable, mais l'avocat peut-être, non pas des idéologues. Mais c'est vrai, Jean-Michel, en même temps, vous le savez très bien, si vous aviez l'âge, est-ce que vous seriez allé à l'Allemagne d'Hitler faire un grand concert à Oxygène?
Ça n'a rien à voir, on était en guerre. Donc c'est tout à fait différent. Là, on n'est pas en guerre avec un certain nombre de pays. Je pense que demain matin, il faut aller en Iran, il faut aller en Arabie, il faut aller
en Corée du Nord. Bien entendu.
Je veux que c'est la seule manière, justement, de ne pas collaborer de manière indirecte à la radicalisation, à l'aliénation.
Et ce qui est formidable, vous avez dit quelque chose, vous m'aviez parlé hors micro, qu'en Arabie Saoudite, les hommes et les femmes étaient ensemble.
Oui, alors c'était un moment historique parce que c'était la première fois qu'il y avait un concert en extérieur devant 50 000 personnes avec hommes et femmes mélangés. Je peux vous dire que de voir des jeunes femmes saoudiennes taper des mains, bouger, danser, etc., c'était quelque chose d'extrêmement émouvant.
C'est sûr, et c'est formidable.
Et quelque chose qui m'a ému, dans une interview, vous avez déclaré récemment que votre maman, qui était une grande résistante, vous a appris justement à ne pas confondre un peuple et une idéologie.
Oui, c'est vrai. Et donc de ne pas confondre justement les nazis et les Allemands. Quand elle est revenue de Ravensbrück, d'un camp de concentration, elle était malheureusement passée la dernière année et demie de la guerre qui était la plus pénible. Elle est revenue sur le toit d'un train de Berlin à Paris, en baissant la tête à chaque tunnel. Et elle a vu les Allemandes qui arrivaient aussi et qui étaient aussi tondues. Et qui était là, elle a pleuré. Parce qu'en disant, finalement, ce sont mes sœurs. Et je pense que ça a été quelque chose d'assez fondamental comme enseignement pour moi. Cette idée de tolérance et au fond du fait que tous les peuples sont les mêmes et sont à certains moments victimes des mêmes choses.
Et les mêmes idéologies.
Et c'est votre maman aussi qui vous a éduqué à l'écologie, elle était avant-gardiste, en fait.
Oui, c'était une femme extraordinaire que André Bercoff a eu l'occasion, de rencontrer dans une autre vie. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de tout à fait extraordinaire et qui m'a justement aussi éveillé à ces problèmes d'environnement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, mon premier album s'appelle Oxygène. Oui. J'ai dit ça, mais en même temps, ma mère, au moment où l'album sort, me dit « Mais pourquoi tu as appelé cet album avec un nom de gaz et pourquoi tu as mis un crâne sur la pochette ?» Je lui dis comme ça, c'est une question de feeling, je pense que j'avais pas tort.
D'esthétique.
Alors faisons une petite pause musicale et écoutons tout de suite un autre titre de votre album, Si le vent pouvait parler.
Je suis très heureux du choix que vous faites pour faire écouter ces extraits, parce qu'en fait, cet album pour moi, c'est comme un film. On n'est plus à l'époque des singles avec où finalement un morceau sorti de son contexte devient comme une sorte de morceau de viande qu'on arrache à une histoire. Et je pense que justement cet album a ceci de particulier, j'espère que ce sera le cas pour les auditeurs, c'est de l'écouter comme un tout, de l'écouter comme on regarde un épisode de Stranger Things ou de Game of Thrones.
Alors j'ai écouté en entier cet album et je trouve que c'est l'un des plus mélancoliques que vous ayez fait. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette mélancolie ?
Ben je pense que moi, ce qui m'intéresse de plus en plus dans n'importe quelle création, peinture, cinéma, musique, c'est ce mélange de côté sombre et ensoleillé, ce côté joyeux qui cache une mélancolie souterraine. C'est toujours finalement ce qui me touche, et c'est ce que j'ai essayé de faire finalement dans tous mes albums, mais dans celui-là en particulier.
Et aujourd'hui, Jean-Michel Jarre, on va parler d'actualité, parce que effectivement, Jean-Michel Jarre, encore une fois, ça fait 40 ans que je le connais, ça fait 40 ans que j'écoute ses disques, c'est sa musique plutôt, parce que les disques, c'est que au fond, et il faut écouter tout, c'est vrai, c'est pas segmenté, hein, c'est pas des petits morceaux, c'est le morceau. Et aujourd'hui, que pensez-vous de la nouvelle génération, là, la musique d'aujourd'hui?
Je me sens, moi, beaucoup plus en phase qu'à l'époque où j'ai commencé, où on était quand même considéré comme une poignée d'allumés qui jouaient avec des instruments qui n'étaient même pas considérés comme des instruments de musique. Même par rapport à l'establishment du rock. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en phase, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont rejoint le bateau, je dirais, de l'électro. Et j'étais toujours convaincu, moi, que la musique électronique deviendrait un genre majeur du 21e siècle. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la musique électronique était liée à cette vision du futur où on se disait tous qu'après 2000 et 2001, les voitures voleraient, que les systèmes éducatifs et sociaux seront idéaux. On a été un peu déçus après 2000. Mais je crois qu'il y avait cette vision du futur, donc qui est chargée de l'avant-garde qui devient classique 30 ans après.
La marge rejoint la page.
Exactement. Et en même temps, l'idée que, au fond, cette idée de faire de la musique avec des sons, on devient tous des sound designers sans le savoir, et que, au fond, la musique qu'on fait aujourd'hui, Pierre Schaeffer était absolument était le père fondateur, le grand-père fondateur de tous les DJ, l'idée que justement on fasse de la musique avec des sons et pas seulement avec des notes. C'est-à-dire l'aspect cuisinier, culinaire de la musique électronique où on cuisine des boucles, des fréquences, des formes d'ondes de manière au fond très organique et à l'opposé de l'idée reçue que la musique électronique serait froide ou robotique.
Et la musique a trouvé ses Bocuse, a trouvé ses Ducasse, a trouvé ses grands chefs. Et c'est ça qui est formidable. Et
en tant que Lyonnais, je ne peux que souscrire.
Absolument. C'est pas par hasard que Lyon est la capitale, d'ailleurs.
Alors, je rappelle, Jean-Michel Jarre, que votre album, donc, il y a deux pochettes. Alors, comment ça se passe? Quand on commande, est-ce qu'on peut choisir?
En fait, on choisit pas. C'est-à-dire que quand on commande, si on commande l'album sur Internet, on reçoit l'une ou l'autre. Donc on peut toujours en recommander un autre pour avoir pour avoir une deuxième chance.
Non, je vais avoir l'espoir.
C'est pas interdit, hein.
C'est l'auto. L'auto Jarre.
Merci, Jean-Michel Jarre. Eh bien, je rappelle que votre album Equinox Infinity vient de sortir chez Columbia.